France Culture.
Il était une fois un roi fort aimable, fort doux et fort puissant. Le mouton aux cornes dorées commanda que l'on fût quérir son char. Un moment après, l'on vit venir six chèvres attelées à une...
L'empereur gagna une bataille considérable. Il vint assiéger sa ville capitale et la prit.
C'était un cœur émaillé de couleurs de feu.
Cette princesse était demeurée veuve fort jeune.
Entourée de plusieurs flèches, avec ces mots, une seule me blesse.
Elle avait de l'esprit et de la beauté. Elle était fière, violente et d'un assez difficile accès.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Si vous aussi vous aimez les contes de fées mais êtes un peu lassé d'y trouver des princesses éternellement soumises que l'on embrasse dans leur sommeil avant qu'un prince ne vienne les sauver, si vous aussi vous rêvez d'héroïnes actives, désirantes, drôles, puissantes, ne cherchez plus, ces contes existent, ils ont été écrits par une femme et ce à la fin du XVIIe siècle. Elle en a composé 25 qui sont autant de bijoux romanesques et malicieux et que l'on qualifierait volontiers de féministes voire queer avant l'heure. Aujourd'hui dans votre book club et en guise de cadeau de Noël, on vous offre de découvrir la fantaisie de Marie-Catherine d'Aulnoy. Ces contes sont au programme du concours de l'École normale supérieure cette année. Deux professeurs de littérature viennent vous la présenter. En fin d'émission, comme chaque jour, on ira trouver de la musique dans un livre et figurez-vous qu'on en a trouvé dans l'un de ces contes. Nous sommes ensemble pour une heure. On enfile nos costumes de fées. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Bonjour Fabienne Mérel.
Bonjour.
Vous êtes docteur et agrégé de lettres modernes. Vous enseignez en classe préparatoire littéraire au lycée Potier d'Orléans. Vous préparez vos élèves au concours de l'École normale supérieure donc et consacrez une partie de votre année à étudier avec eux, avec elles, les contes de Madame d'Aulnoy qui sont donc au programme cette année. Bonjour à vous Déborah Lévy-Bertera.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature comparée à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et vous formez des jeunes chercheurs et chercheuses en littérature, ceux qui ont réussi le concours, qui sont passés de l'autre côté. Vous animez un séminaire portant sur les contes dans lequel vous abordez l'étude de plusieurs de ceux de Marie-Catherine d'Aulnoy. Bienvenue à toutes les deux. Merci d'autant plus d'être avec nous en direct un 24 décembre. On est doublement ravis de vous accueillir. Je signale d'emblée qu'on peut lire ces contes dans une édition critique présentée par Nadine Jasmin sous le titre « Contes des fées » aux éditions Honoré Champion. C'est l'édition de référence pour le concours ENS. Mais il existe aussi une édition de poche très abordable en termes financiers chez Folio. Elle est présentée par Constance Cagnat-Debeuf. Cette émission s'inscrit par ailleurs dans le cadre de toute une programmation spéciale que France Culture consacre à Madame d'Aulnoy en ce mois de décembre. Je vous renvoie au documentaire « Toute une vie » que lui ont consacré Dominique Preuzac et Anne Fleury et aux lectures du soir de l'un de ses contes, Belle Belle ou le Chevalier Fortuné, par la merveilleuse comédienne Kate Estelle Meyer, réalisation de Laurence Courtois. Toutes ces émissions sont à retrouver quand vous voulez sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Pour ouvrir cette conversation, je voudrais tout simplement vous demander à l'une et l'autre comment, quand vous l'avez découverte, Madame d'Aulnoy, chacune d'entre vous. Fabienne Mérel.
Alors moi, je l'ai découverte en réalité parce qu'elle était au concours. Sinon, j'avoue que j'avais déjà vu son nom passer. Je savais qu'elle était liée à ce qui est son conte le plus célèbre, à l'Oiseau bleu. Mais je n'en avais pas de connaissances plus précises. Et donc, en fait, c'est sans aucun préjugé, sans aucune attente que j'ai ouvert les deux tomes qui sont au programme du concours 2026. Et voilà, et je l'ai... découverte, on va dire, pour la première fois dans ce cadre.
Et vous, Déborah Lévy-Bertera ?
Et pour moi, c'est relativement récent aussi, mais c'est il y a 5 ou 6 ans, j'ai décidé de consacrer un séminaire aux contes, et notamment à la question de la métamorphose animale dans les contes. Et déjà auparavant, j'avais comme ça des sujets liés aux contes, mais plutôt à des figures comme Pinocchio, Alice, et d'autres Peter Pan, etc. Et là, j'ai cherché. Je voulais aussi un programme qui ne soit pas exclusivement masculin. Et donc, parmi les autrices de contes, j'ai choisi avec émerveillement, découvert et choisi avec émerveillement d'Aulnoy pour un certain nombre de contes, chaque année différents. Mmh. Et ça va encore être le cas cette année.
Est-ce qu'on peut peut-être commencer par dire qui elle est, avant même d'aborder le contexte dans lequel elle écrit ses contes? J'ai été assez stupéfaite en lisant une présentation de sa vie et en écoutant le documentaire « Toute une vie » qui porte sur cette existence absolument romanesque en elle-même. Qui veut donner comme ça, Fabienne Merel, quelques éléments pour nous dire un peu comment s'est déroulée son existence?
Oui, alors ce sont des éléments assez épars parce que nous ne savons pas tout de la vie de Madame d'Aulnoy qui garde aussi une partie de son mystère. Nous les devons, ces éléments, à un pionnier de la découverte du conte de fées merveilleux, enfin la redécouverte, qui était Jacques Barchillon, hein, qui a donc a proposé des éléments biographiques. Alors nous savons que donc elle est née Marie-Catherine Le Jumel de Barneville vers 1650 dans une petite commune du Calvados. Elle appartient à une famille d'ancienne noblesse. Sa mère, écrit Barchillon, était très bien en cour. D'ailleurs, Marie-Catherine d'Aulnoy gravitera autour de la cour, mais ne sera jamais, on va dire, non plus complètement intégrée à la cour. On va le voir du fait aussi d'une vie assez rocambolesque. D'autre part, oui, donc elle a une mère qui est veuve, qui est remariée, mais ensuite elle vit aussi librement avec un autre homme, avec un marquis. Donc elle est entourée de ces personnages-là, c'est qui ont joué un rôle important dans sa vie, j'y reviens dans quelques instants. Elle est mariée à l'âge de 15 ans, avec un baron, le baron d'Aulnoy, François de la Motte, qui donc a 30 ans de plus qu'elle.
Mariage arrangé, donc un
bien
mariage
sûr,
absolument
imposé,
pas de sa décision.
Bien sûr. Et alors c'est un mariage d'autant moins heureux que d'abord la famille, donc la mère de Marie-Catherine, se rend compte que cet homme n'est pas aussi riche qu'il le prétend. Donc c'est un mariage qui tourne vite à la déception. D'autre part, cet homme, ce que raconte Jacques Barchillon très clairement, visiblement malmenait sa femme, même quand elle était enceinte. Or elle tombait enceinte à peu près tous les 9 ou 12 mois, donc elle a eu beaucoup d'enfants, dont beaucoup sont morts. Née.
J'ai lu qu'elle avait eu 4 enfants, 4 grossesses avant même l'âge de 18 ans, c'est ça?
Oui, il y a 4 filles qui vont survivre aussi de ce mariage avec le baron d'Aulnoy. Mais ça veut dire que probablement elle est malheureuse parce qu'ils sont accablés de dettes, parce qu'une fois encore, ils ne la respectent pas. Et donc, alors, ce qui devient totalement rocambolesque, c'est quand la mère et l'amant, qui s'appelle le marquis de Courboyer de la mère, décident de monter une cabale contre ce baron d'Aulnoy, en l'accusant d'écrits séditieux, de propos anti-royalistes. Donc il est arrêté, embastillé pour crime de lèse-majesté. Il va quand même clamer son innocence, qu'il va réussir à prouver. Et donc ça va se retourner contre les commanditaires du complot, à savoir la mère de Marie-Catherine, son amant, l'amant de sa mère, le marquis de Courboyer, mais aussi alors Marie-Catherine. Néanmoins, son mari, donc le baron d'Aulnoy, n'accuse pas sa femme. Donc elle est emprisonnée.
Mais complot ourdi pour notamment libérer la jeune femme. Alors moi, les griffes de cet homme ?
Non, c'est pas ce que j'ai lu. Okay. C'est vraiment parce que cet homme, en réalité, il est trop endetté. Enfin voilà, il s'agit de s'en défaire. Peut-être y a-t-il aussi ce motif-là, mais en tous les cas, en fait, on sait même très peu de choses. Surtout autour de son complot, parce qu'on évidemment on imagine bien que les principaux intéressés n'avaient pas intérêt à divulguer non plus les dessous de cette affaire quand même qui n'est pas très recommandable pour des aristocrates de cette époque. Alors Marie d'Aulnoy, donc elle est emprisonnée un temps à la conciergerie, mais moins longtemps que sa mère et que l'amant de sa mère, puisque son mari ne l'accuse pas. Et ensuite, donc elle part. D'abord, elle passe une année dans un couvent. Sûrement pour se faire oublier. Et puis après, elle part en voyage. Donc elle voyage dans les Flandres, en Angleterre, en Espagne. Et donc, elle se tient assez éloignée, en fait, de Paris, ce qui peut aussi très bien s'expliquer. Et donc, pendant tous ses voyages, à un moment, elle s'installe en Espagne. Elle écrit, donc, c'est un écrivain prolifique. Hein, donc, maintenant, nous la connaissons pour ses contes. Mais elle a écrit, en fait, toutes sortes d'écrits. Elle a écrit beaucoup de romans.
Mmh, bien avant les contes, même.
Voilà, des récits, donc, sur ses voyages. Des mémoires sur la cour d'Espagne, elle a écrit tous ses écrits ont très vite beaucoup de succès, en particulier ses récits de voyage, ses mémoires, puis après ses contes vont connaître un énorme succès. Donc quand finalement son nom se trouve en quelque sorte à nouveau redorée, elle revient à Paris où elle fréquente le salon de Madame Lambert, et donc où elle se fait à nouveau connaître dans ce milieu mondain parisien. Et après, elle-même crée son propre salon rue Saint-Benoît, qui obtient aussi un certain nombre de succès. Alors, son mari meurt en 1700, il n'aura jamais reparlé à sa femme. Depuis l'affaire, en fait, de la fausse accusation. Et Madame d'Aulnoy meurt 5 années après. Elle a eu de tous ses enfants, parce qu'elle a eu aussi, donc, par deux fois, des enfants donc avec des pères inconnus. Enfin, des pères inconnus, en tout cas, c'est comme ça que ses enfants ont été déclarés. Donc, il y a simplement donc 4 de ses filles qui lui ont survécu. On ne sait pas combien d'enfants elle a eu au total, mais visiblement pas mal. C'est important, parce que ce que je dis là, parce qu'on trouve beaucoup l'enfance et les mères qui élèvent leurs enfants dans ces contes. Et voilà un peu pour le panorama
Et c'est important, et on le verra tout à l'heure, cette première partie de sa vie marquée par une confrontation à une forme de domination et de violence masculine, dont on retrouve l'écho très clairement, même si bien évidemment il ne s'agit pas de rabattre les textes sur la biographie, mais enfin quand même, on verra comment on peut en retrouver l'écho. Un mot peut-être, Déborah Lévy-Bertera, sur le contexte littéraire d'apparition des contes proprement dit. Donc on l'a dit, Madame d'Aulnoy anime un salon. Qu'est-ce que c'est que cette mode des contes de fées à cette époque-là? On se trouve dans les décennies, donc 1690-1710, en gros. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là autour des contes de fées? Quel est le paysage de littéraire, et singulièrement pour des femmes comme Madame d'Aulnoy?
Oui, il y a certainement une mode des contes. Et d'ailleurs, son premier recueil s'appelle « Les contes des fées » ou les fées à la mode, qui est un peu une réponse à Perrault et les contes du temps passé. Donc, elle actualise, elle modernise. Alors, effectivement, il y a toute une génération d'autrices de contes, qu'on appelle, avec parfois un petit peu de mépris, les conteuses, et moins d'hommes. La raison est peut-être que, comme le conte est considéré comme un genre mineur, comme un genre nouveau et comme un genre un peu marginal, il offre beaucoup plus de liberté. Et que les femmes, de même que pour le roman, vont pouvoir s'y engouffrer, vont pouvoir s'y épanouir. Il est en quelque sorte autorisé. On sort des genres vraiment canoniques. Et donc il y a toute une génération d'écrivaines qui se consacrent au conte. Et ce qui est évidemment très injuste, c'est qu'on va retenir surtout Perrault. Pas sur le moment, puisque d'Aulnoy a beaucoup de succès, et les autres femmes aussi, mais... par la suite, elles vont être invisibilisées au profit de Perrault.
Madame d'Aulnoy est une parmi une constellation d'autres autrices, tout aussi oubliées qu'elle, mais fameuse.
Mademoiselle de l'Héritier, Mademoiselle de la Force, etc. Donc il y a toute une génération en fait d'autrices. Et les salons sont très importants, puisque les salons sont un lieu où on va non seulement lire à haute voix les contes, qui ne sont pas véritablement écrit pour les enfants, ça on va peut-être en reparler, mais aussi peut-être les faire naître, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'émulation, il y a un effet de co-création de ces contes au sein des salons.
Oui, et ils sont créés aussi en partie pour être dits, pour être lus oralement, et c'est une marque aussi dans la langue
des contes. Il y a des références à l'oralité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des contes, on va mettre en scène des personnages qui comptent, et quand on pense au titre « Les contes des fées » et non pas « de fées », on peut penser que ça peut signifier à la fois les contes qui concernent, qui ont pour sujet les fées, mais aussi les contes dits par les fées. Ce qui voudrait dire que les conteuses, les autrices, sont aussi des fées de la parole.
Elle en écrit 25, si j'ai bien lu, ce qui représente
27,
ce qui représente un millier de pages, parce qu'il faut dire que contrairement aux contes de Perrault, les contes de Madame d'Aulnoy sont longs. Il y en a qui font une centaine de pages, donc c'est pas du tout ce qu'on a en tête quand on pense aux contes. Voilà, chacun est un petit roman avec une profusion romanesque assez extraordinaire. On va y revenir. Donc c'est énorme, hein, comme. Production, comment est-ce qu'on peut comprendre, on l'a dit, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez découverte relativement tard dans votre parcours de chercheuse en littérature. Moi, j'ai découvert cette autrice et certaines de mes camarades de la même manière pour préparer cette émission. Comment on peut comprendre qu'elle ait été à ce point oubliée, voire invisibilisée pendant des siècles, avant qu'aujourd'hui, il y a une forme de redécouverte, et notamment dans le paysage de la recherche littéraire. Fabienne Meyrel.
Comme cela vient d'être expliqué, déjà, Perrault a quand même pris toute la place, alors qu'il a publié finalement très peu de contes. Hein, ses contes en vers et ses contes en prose, ça en fait peu par rapport à Madame d'Aulnoy ou à tout, en effet, ce groupe de femmes autrices de contes. Il a pris beaucoup de place, mais et encore, finalement, par exemple, dans la recherche, il faut attendre la fin du XXe siècle pour que, je pense aux travaux de Marc Soriano, par exemple, pour qu'on se réintéresse à Perrault comme un auteur majeur, parce que ce qui explique très bien Jean-Paul Sermin dans son étude sur les contes des fées, c'est que au fond, c'est la littérature jeunesse qui va plutôt s'emparer de ces contes. On le voit d'ailleurs, on voit très bien dans la réception, mais même de Perrault au XIXe siècle. Je pense à des illustrations de Gustave Doré de ces contes qui s'adressent plutôt aux enfants. Et donc, je pense que ce genre a été délaissé. Très nettement par la littérature, on va dire, et les études dites sérieuses ou scientifiques. Et en fait, là, je pense qu'il y a eu... Alors, il y avait déjà des travaux assez anciens, donc j'ai cité ceux de Jacques Barchilon, je pense à Raymonde Robert aussi, qui a redécouvert les contes de fées littéraires français. Puis après, Nadine Jasmin, naturellement, qui est la spécialiste de Madame d'Aulnoy. Mais ça reste quand même peu connu aujourd'hui encore, et j'ai l'impression que même s'il y a des chercheurs désormais sur ce genre littéraire français, ça reste quand même, alors on va dire c'est pas invisible, mais ça reste
marginal,
peu connu.
Double invisibilisation, si je comprends bien, hein, à la fois elle a pâti du fait que les contes en général sont considérés littérature pour enfants, littérature déconsidérée jusqu'à aujourd'hui, et on va voir que peut-être c'est une fausse idée que c'est de la littérature pour enfants en ce qui la concerne, c'est même carrément une fausse idée je crois, mais aussi bien sûr invisibilisation du fait que c'est une femme, Déborah Lévy-Bertera.
Oui, bien sûr, elle et toutes les autres. Et ça a été après leur mort. C'est-à-dire que de son vivant, d'Aulnoy est très célèbre et est très lue. Elle vend, entre guillemets, plus que Perrault. Et à tel point d'ailleurs que certains contes lui sont attribués alors qu'elle n'en est pas l'autrice. Alors on va les publier, comme les siens d'ailleurs, avec comme nom Madame D apostrophe A point. Voilà, et parfois des petites étoiles. Et ça suffit, et ça fait vendre. Ce qui veut dire que cette invisibilisation, elle a été tardive, elle a été massive au XIXe siècle, et c'est dans les années 80 en fait qu'elles vont revenir sur le devant de la scène. Et là, la critique anglo-saxonne est très importante aussi.
Oui, parce qu'elle a été très très connue, voilà, très reconnue en Angleterre.
Et aux États-Unis.
Et les jeunes chercheurs et chercheuses en littérature que vous avez devant vous quand vous animez votre séminaire, vous sentez un intérêt chez eux particulier.
À vrai dire, plus les chercheuses.
Ouais.
Mais oui, certainement. Et oui, il y a des thèses en cours sur les autrices de contes, et elle notamment. Oui.
Et c'est joyeux. On va plonger dans la matière même de ces contes. Pour nous y emmener, on n'a pas résisté au plaisir de faire entendre cette légendaire chanson de la Fée des Lilas dans le film Peau d'âne de Jacques Demy. 1970, c'est l'adaptation, comme on sait, d'un conte de Perrault et non de Madame d'Aulnoy. Mais cette chanson-là, elle est interprétée par Delphine Seyrig, icône et figure centrale du féminisme. Et on verra l'articulation entre une pensée féministe et ces contes de Madame d'Aulnoy. On s'est demandé ce qu'elles auraient eu à se dire, Madame d'Aulnoy et Delphine Seyrig, si elles avaient pu se rencontrer. Et puis on verra que l'un des contes de Madame d'Aulnoy qu'on évoquera tout à l'heure y renvoie aussi indirectement à Peau d'âne. On écoute Delphine Seyrig.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Il était une fois une princesse qui, une nuit, tua son fanfarinet et benet d'époux pour ne pas se laisser dévorer par lui d'un coup de poignard dans l'œil et sans regret. Il était une fois une princesse trognon, Cujat, que le très laid prince Torticoli refusait d'épouser, qui bientôt découvre une main ensanglantée avant d'être transformée en sauterelle. Il était une fois un prince et une princesse qui se métamorphosèrent, le premier en oranger, la seconde en abeille, de sorte qu'elle put planter son dard à elle dans sa fleur à lui. Il était une fois une princesse capturée par un couple d'ogres féroces, mais qui parvint à les faire brûler au four à force de finesse, de malice et d'intelligence. Bienvenue dans l'univers des contes de Marie-Catherine d'Aulnoy, celle à qui l'on doit l'expression même de conte de fées et dans lesquels les héroïnes bravent l'adversité avec courage et ingéniosité. Enchâssement narratif, péripéties romanesques, esthétique précieuse, merveilleux animal et végétal, critique sociale et des fées puissantes, comme leur autrice. On vous retrouve Fabienne Merel et Déborah Lévy-Bertera pour en parler, alors que ces contes de la fin du XVIIe siècle sont ces dernières années redécouverts. Pour le deuxième moment de notre conversation, on va s'arrêter sur quelques-uns d'entre eux parmi les 27 que Madame d'Aulnoy a composés. On vous a demandé à toutes les deux de choisir deux ou trois contes chacune et on en évoquera certains. J'espère qu'on aura le temps de les évoquer tous pour plonger dans la matière même et dans la langue de Madame d'Aulnoy, bien sûr. On va commencer par La Princesse Printanière. C'est un conte sur lequel vous avez attiré notre attention, Fabienne Merel, est-ce que vous voulez bien nous en résumer le propos ?
Oui, alors c'est même mon préféré de Madame d'Aulnoy, donc je suis ravie qu'on commence par celui-ci. Alors en fait, c'est une princesse, alors on est dans une sorte de royaume un peu d'opérette, hein, pas très sérieux, mais elle est demandée en mariage par un prince qui envoie son ambassadeur qui s'appelle Fanfarinet. Donc déjà on voit que le nom ne promet rien de bon.
Merveilleux nom, on parlera de l'onomastique oui. Chez Madame d'Aulnoy, j'espère.
Oui, oui. Et alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un mauvais sort qui pèse sur elle, qui fait que jusqu'à ses 20 ans, elle risque une malédiction. Et donc, ses parents ont choisi de la faire enfermer dans une tour, Donc, sans possibilité de voir à l'extérieur, elle est vraiment complètement enfermée et elle n'a de contact qu'avec des femmes. Alors, on voit bien déjà toute la symbolique, enfermement de la tour, ne pouvoir voir que des femmes. On retrouve d'ailleurs dans beaucoup de contes de Madame d'Aulnoy des mises en garde contre les garçons que la narratrice souligne très souvent. Et donc, elle apprend que Fanfariné, l'ambassadeur, va venir va être reçu, va être donc par ses parents. Et donc, elle fait un petit trou pour pouvoir voir cet ambassadeur.
Alors, un petit trou dans le mur.
Un petit trou dans le mur. Voilà. Alors, elle gratte avec sa nourrice pour pouvoir. Et donc, en fait, c'est le premier homme qu'elle voit. Et alors, elle le trouve comme évidemment, il est en tenue de grand apparat. Puisque c'est tout un cérémonial que de recevoir l'ambassadeur du prince qui vient demander la main de la princesse. Bon. Et donc, elle le trouve absolument magnifique. Alors, évidemment, déjà, on voit toute l'ironie, c'est-à-dire qu'elle se laisse complètement éblouir par l'apparence, par l'éclat des habits du personnage, il y a toute la musique aussi qui l'impressionne. Et alors, pendant le souper royal, elle l'approche et elle n'a peur de rien. Elle est intrépide, donc elle lui déclare sa flamme immédiatement. Et donc elle lui propose de s'enfuir avec lui, qu'elle a un plan. Alors lui, il est pas très 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 empressé à l'idée de s'enfuir.
Globalement, il est pas très dynamique.
Et puis il est pas très dynamique. Puis surtout, bon, il est pas très intéressé. Alors il est comme très flatté que ce soit une princesse, puisqu'il n'est jamais combattu. Donc c'est une mésalliance qui lui est favorable. Il rechigne quand même à partir. Bon, elle arrive à partir, donc ils vont s'enfuir la nuit sur une île. C'est un conte très très drôle. Hein. Alors, la famille de Printanière prend le grand deuil parce qu'on s'imagine que ça y est, ils sont morts. C'est terrible et en même temps tout ça est raconté de manière burlesque. Et donc sur l'île, évidemment, ils n'ont rien à manger. Et très vite, en fait, Fanfariné va se mettre à haïr la princesse Printanière parce qu'elle n'est même pas capable de lui rapporter à manger. Alors, il l'envoie, donc elle cherche des graines, ce qu'elle peut trouver dans la nature, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, il se montre très, très vite irrespectueux, puis il devient même enragé. Mm. Et en fait, à un moment, comme elle a des dons magiques, la nature lui offre un pot de miel, du lait, mais elle va tout de suite l'offrir parce que en fait elle est fascinée par ce personnage. Elle l'offre donc à Fanfariné par amour, qui lui dévore mais sans jamais rien partager naturellement avec la pauvre Printanière qui est pas loin de s'évanouir de faim en fait. La situation est, alors à partir d'un moment ça devient tout de même très équivoque était très intéressant parce que on voit qu'elle est quand même très fascinée par cet homme qui la malmène, que ça ne la dérange pas, qui lui dit même toute sa haine à un moment, qui la menace qu'il va la tuer, il en a assez d'elle. Et ils vont même s'allier quand les troupes du roi, donc du père de Printanière, débarquent sur l'île pour venir sauver la princesse. Ils vont s'allier tous les deux pour tuer un maximum de gendarmes envoyé par le roi. En fait, ça veut dire quand même que cette jeune fille, à un moment, on dirait aujourd'hui qu'elle est un peu sous emprise, enfin, ça pourrait être un mot anachronique, mais c'est un peu ça quand même. Elle est même fascinée par sa brutalité. Alors, Jasmin, elle a très bien expliqué dans...
Nadine Jasmin, la spécialiste de Madame Dolan.
Qui est l'éditrice des contes des fées chez Honoré Champion. Elle explique très bien qu'il y a ici toute, en fait, une lecture sur le désir, hein, l'éveil au désir... donc une lecture entre le manger et le sexuel qui se lie en filigrane très très bien, mais on sent que en fait même à un moment tout au début de leur rencontre aussi il y a une forme un peu comme ça de sadomasochisme dans ce conte, c'est que il lui fait mal tout de suite, il lui écrase les doigts, mais en fait elle en est affolée de cet homme. Et puis à un moment, quand le conte se finit, parce que il a trop faim, donc il décide de manger la princesse printanière. Et donc là, elle se défend, elle le tue avec un couteau qu'elle lui enfonce dans l'œil bien profondément. Et puis, elle est très, très satisfaite à l'idée de l'avoir tué. Et le conte se finit un peu banalement, c'est-à-dire que le prince qui était initialement prévu pour être son mari vient, les noces en quelques lignes sont accomplies.
On va en aller écouter un petit extrait. Fanfarinet avait beaucoup d'esprit. Mais quand il vit la belle printanière avec tant de grâce et de majesté, il demeura si ravi qu'au lieu de parler, il ne faisait plus que bégayer. L'on aurait dit qu'il était ivre. Il se désespérait d'avoir oublié en un clin d'œil une harangue qu'il répétait tous les jours depuis plusieurs mois et qu'il savait assez bien pour la dire en dormant. Pendant qu'il donnait la question à sa mémoire pour la retrouver, il faisait de profondes révérences à la princesse. Enfin, elle prit la parole et lui dit « Seigneur Fanfarinet, je connais sans peine que tout ce que vous pensez est charmant. Je vous tiens compte d'avoir tant d'esprit. Mais hâtons-nous de gagner le palais. Il pleut à verse, c'est la méchante Carabosse qui nous inonde. » Il lui répliqua galamment que la fée avait sagement prévu l'incendie que ses beaux yeux allaient faire et que pour le tempérer, elle répandait des déluges d'eau. Après ce peu de mots, il lui présenta la main pour lui aider à marcher. Elle lui dit tout bas « J'ai pour vous des sentiments que vous ne devineriez jamais si je ne vous les expliquais moi-même. Cela ne laisse pas de me faire de la peine, mais on y soit qui mal y pense. Sachez donc, monseigneur l'ambassadeur, que je vous ai vu avec admiration monter sur votre beau cheval qui danse. J'ai regretté que vous vinssiez ici pour un autre que pour vous. Nous ne laisserons pas, si vous avez autant de courage que moi, d'y trouver du remède. » C'est un extrait de ce conte La princesse printanière, Fabienne Mérel. C'est le moment où cette princesse échange pour la première fois avec ce Fanfarinet qui n'arrive pas à décrocher quatre mots. Ce passage pour faire entendre la manière dont Madame d'Aulnoy, clairement, si je devais le dire en termes vulgaires, à la fois se moque de ce personnage et à la fois campe cette princesse comme une puissance désirante. Ce qui frappe ici, c'est qu'on entend que ce personnage de princesse est motrice et elle est mue par son désir. Ce qui, on imagine, devait quand même pas être si fréquent pour des personnages féminins à la fin du XVIIe siècle.
Non, c'est aussi ce qui fait que ce conte, je le trouve très moderne. Alors, ça paraît être d'une grande banalité. Aujourd'hui, on a tendance à trouver tout moderne quand on jette un regard rétrospectif sur une littérature plus ancienne. Mais celui-ci, il est vraiment d'une grande modernité. D'abord, il est court. On voit qu'il mélange tous les registres. Et donc, il nous amuse tout en évoquant quand même des questions, en effet, graves, comme ce désir qu'elle éprouve, qui est pour elle inexpliqué, mais une fois encore, c'est le premier jeune homme qu'elle voit. Et qu'elle, évidemment, elle comprend mal l'éveil de ce désir, et en même temps, donc, ça va jouer quand même sur la relation, en effet, qui vise à contenter l'homme en lui donnant exactement tout ce qu'il attend. Donc, c'est elle qui part, une fois encore, à la cueillette ou à la recherche de la nourriture. Et puis, c'est l'ambiguïté aussi qui est intéressante ici, parce que en même temps, comme je l'ai dit, elle est quand même très fascinée par sa brutalité. On a l'impression que le conte nous montre qu'à la fin, elle sait sortir de cette fascination, qu'elle reprend son pouvoir et que c'est elle qui décide que son destin, ça ne sera pas d'être mangée par, au plan symbolique, d'être mangée par Fanfarinet.
Oui, vous disiez justement, on a tendance aujourd'hui à tout trouver moderne, mais je crois que si le mot de modernité nous vient tant à l'esprit quand on lit Madame d'Aulnoy, c'est aussi que dans l'univers des contes de fées, c'est pas si courant. Et On est combien aujourd'hui de parents, d'adultes qui entourons les enfants, les petites filles et les petits garçons et qui cherchons à leur lire des contes où il y a des personnages de femmes puissantes. Il y a plein d'auteurs et d'autrices jeunesse aujourd'hui qui réécrivent des contes en inversant les rôles de ce point de vue-là. C'est quand même quelque chose de tout à fait singulier. Je voudrais qu'on écoute la lecture qu'une auditrice du Book Club, Elisa, a faite de ses contes quand elle était petite au collège. Elle a eu bien de la chance. Elle vous interroge à ce sujet.
Bonjour le Book Club. Ma première rencontre avec les contes de fées de Madame d'Aulnoy remonte en 5e, où j'avais adoré me plonger dans ces mondes merveilleux où tout est possible, où les bijoux ou les pierres précieuses en font la taille de montagnes. Et j'ai redécouvert ces contes adultes et je les ai relus avec un sourire constant. Je ne peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a une forme d'humour, oui, de véritable jeu encore dans cette écriture. Donc ma question, elle serait tournée autour de l'aspect ludique, du jeu, de l'humour. Est-ce que ça fait partie vraiment du style et de la façon d'écrire de Madame d'Aulnoy? Voilà, je vous remercie pour votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Elisa, pour cette question absolument pertinente. Peut-être sur cette question, Déborah Lévy-Bertera, vous voulez dire un mot? L'humour, c'est l'une des caractéristiques de l'écriture de Marie-Catherine d'Aulnoy?
Oui. Oui, absolument. C'est souvent très drôle. Alors, il y a une part d'ironie, il y a une part d'excès, il y a une part de caricature. Il y a des dimensions tout à fait satiriques. Mais effectivement, à plusieurs reprises, on rit. Enfin, on est vraiment amusé. Par exemple, quand il est question de l'éducation du prince Marcassin, qui est enrubanné,
rien qu'à y penser,
entortillé de toutes sortes. On lui met des boucles d'oreilles, on lui met des vêtements un peu longs pour cacher ses pattes, etc.
Le prince Marcassin, il faut le dire en un mot, hein, voilà. c'est un prince qui est un petit sanglier humain,
mais une malédiction a fait qu'il est né sous la forme d'un marcassin qui va arriver malgré tout à être plus ou moins éduqué, donc il apprend à parler, mais c'est pas très audible. Et le glissement perpétuel de l'humain vers l'animal est traité de façon parfois grave, mais parfois tout à fait humoristique et vraiment irrésistible.
Et il y a des allers-retours entre la gravité et la drôlerie. Les deux sont comme menés de front en permanence.
Il va, par exemple, lancer à sa mère, en comprenant qui il est. Voilà, il arrive à l'âge adulte, à la fin de l'adolescence. Il comprend sa tragédie, en fait. Il ne pourra jamais être aimé, etc. Et il lance à sa mère « Pourquoi m'avez-vous fait cochon ?» Ce qui est à la fois l'expression, enfin on a l'impression déjà d'un héros du temps des Lumières, et en même temps la formulation est assez grossière et peut prêter à rire.
Oui, et aussi, enfin là, en vous écoutant la dire, je n'y avais pas pensé en le lisant, mais il y a aussi une contemporanéité, enfin si on pense à la formule « balance ton porc », je veux dire, il y a quelque chose de vraiment extraordinairement contemporain dans la
évidemment,
peinture
d'une masculinité. Derrière son côté porcin, c'est évidemment la sexualité sauvage et débridée qui est désignée. Alors, quand elle l'appelle Marcassin, c'est une façon un petit peu de voiler. Marcassin, c'est mignon, c'est un petit sanglier. Le nom en soi est mignon, il a beaucoup joué sur le mot marcassiné, marcassinien, etc. Mais c'est quand même un porc et c'est une réécriture du roi porc de Straparola. Donc c'est aussi le mari effrayant, animal, pour qui la nuit de noces est l'occasion d'un viol et d'un meurtre. Parce que voilà, il considère que les femmes ne méritent pas mieux. Donc il y a aussi derrière l'animalité toute cette dimension comique, humoristique, mais aussi très grave.
L'un des contes que vous vouliez évoquer, ça fait écho à ce que vous venez d'écrire, Déborah Lévy-Bertera, c'est un conte qui s'appelle « La biche au bois ». Est-ce que vous voulez bien nous dire de quoi il est question dans ce conte et pourquoi il vous semble particulièrement intéressant ?
Alors, « La biche au bois », ça commence, comme beaucoup de contes, chez Donoy, mais pas seulement, par une naissance. Donc, naît une petite princesse particulièrement bien accueillie. Sa naissance, comme souvent, est accompagnée d'une malédiction. Elle devra rester cachée jusqu'à l'âge de 15 ans. Ne pas venir au monde avant, sans quoi elle subirait un malheur dont on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Elle va donc être éduquée jusqu'à l'âge de 15 ans dans un palais parfaitement hermétique dans lequel elle va bénéficier, disons, de tous les savoirs historiques notamment, mais aussi géographiques, culturels, etc., d'une princesse. Et notamment être en relation avec de potentiels fiancés, avec un échange de portraits. Des portraits qui sont d'ailleurs animés, ce qui est quand même particulièrement visionnaire, des portraits parlants. Et
c'est comme une image du cinéma quelques siècles avant qu'il ne soit inventé.
Pratiquement, on a l'impression que c'est Tinder avant l'âge, quoi. Et donc, elle tombe amoureuse d'un prince, ça lui donne envie de quitter son palais juste avant, bien sûr, d'avoir 15 ans. Et elle a l'idée de voyager dans un carrosse parfaitement hermétique, sauf qu'une méchante fée va déchirer la capote du carrosse et exposer Désirée, puisque c'est son nom, à la lumière. Et elle devient à ce moment-là biche. Elle devient une très gracieuse biche blanche, mais elle s'en sauvage, donc elle part dans la forêt. Et un prince, donc le prince dont elle était tombée amoureuse, va la chasser sans bien sûr la reconnaître, la blesser. Et puisqu'elle redevient jeune fille la nuit, il va un jour, parce qu'il loge comme par hasard dans la pièce voisine et l'espionne par un petit trou qu'il a percé dans la cloison, s'apercevoir que la jeune fille, la jeune princesse qui est dans la pièce voisine avec sa servante, est blessée. Et il comprend donc que cette jeune fille et la biche ne sont qu'une seule et même créature. Et elle va pouvoir déjouer la malédiction, redevenir humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que Donois ne va pas sauver la biche par le prince. Alors, même s'il y a un moment où, comme dans le conte que racontait tout à l'heure Fabienne Merel, la jeune fille est séduite par le prince malgré sa violence, malgré la chasse, malgré la flèche, etc.
C'est toute l'ambivalence qu'évoquait Fabienne Merel tout à l'heure.
Et alors là, ça n'est pas une vengeance, c'est une revanche. C'est-à-dire que au moment du mariage, la fée marraine de la jeune fille va la doter de domaines, de royaumes qui sont plus grands que ceux de son fiancé. Parce qu'il faut qu'elle soit plus riche que lui. Donc là, le pouvoir, c'est un pouvoir économique. Et c'est souvent très important chez Donois. Et on a souvent aussi un pouvoir matriarcal chez elle.
Ah, si tu pouvais m'entendre, petite biche, lui criait le prince guerrier, tu ne m'éviterais pas. Je t'aime, je te veux nourrir. Tu es charmante, j'aurai soin de toi. Il vit bien qu'elle avait perdu toutes ses forces. Elle était couchée comme une pauvre petite bête demi-morte et elle n'attendait que de voir finir sa vie par les mains de son vainqueur. Mais au lieu de lui être cruel, il se mit à la caresser. Elle ne faisait que penser de quelle manière elle pourrait se sauver lorsqu'il lui en fournit le moyen, car ayant peur qu'elle n'eût besoin de boire, il alla voir où il pourrait trouver quelques ruisseaux afin de l'y conduire. Le jour revint, et avec lui, la princesse reprit sa figure de biche blanche. Elle ne savait à quoi se résoudre, ou d'aller dans les mêmes lieux que le prince parcourait ordinairement, ou de prendre une route tout opposée pour l'éviter. Elle choisit ce dernier parti et s'éloigna beaucoup. Mais le jeune prince, qui était aussi fin qu'elle, la mire si bien qu'il lui enfonce une flèche dans la jambe. Elle sentit une douleur violente et n'ayant plus assez de force pour fuir, elle se laissa tomber.
Cette scène de la biche au bois, Déborah Lévy-Bertera, dans laquelle le prince guerrier enfonce donc une flèche dans le corps de cette jeune femme, biche puis redevenue jeune femme. Dans un article que vous avez consacré à ce texte, vous dites qu'on peut lire cette scène comme tout simplement une scène de viol.
Oui, tout à fait. Je pense que l'un des pouvoirs de la métamorphose animale, c'est de permettre de dire les choses beaucoup plus crûment, beaucoup plus directement. Le seul fait que, par exemple, quand la princesse est biche, le prince puisse la tutoyer, puisse se coucher contre elle, et qu'elle-même puisse se coucher contre lui, tout cela serait inconcevable si elle était humaine. Donc, ça permet de libérer, en quelque sorte, les instincts dans ce qu'ils ont de meilleur et de pire. Et effectivement, cette blessure, c'est clairement une forme de viol, avec la flèche enfoncée dans la jambe de la biche. Et on pourrait dire que ce motif, on le trouve dans d'autres contes, dans Le Prince Marcassin aussi. On va avoir comme ça l'animalité qui permet de figurer une sexualité débridée. Souvent, la transition par l'animalité, qu'elle soit féminine ou masculine dans les contes, est une façon de figurer la puberté. Enfin, en tout cas, on peut le penser. Hein, puberté qui signifie littéralement se couvrir de poils. Donc, devenir
belle. La jeune femme qui a 15 ans, c'est-à-dire à l'âge de la puberté, en gros, pour les femmes, pour les jeunes filles, devient biche couverte de poils et se fait violer. Mais c'est aussi la condition féminine à l'époque de Madame d'Aulnoy. C'est-à-dire qu'elle-même, sa vie, elle a vécu ça. Elle est mariée de force, en gros, à 14-15 ans et n'a d'autre choix que de se soumettre. En gros, les femmes mariées de cette manière à cette époque-là vivent, je ne saurais dire un pourcentage, mais enfin énormément d'entre elles ont vécu ce qu'on appelle aujourd'hui des viols conjugaux, bonnement.
Certainement, et d'Aulnoy tout particulièrement, puisqu'elle avait un mari violent, qui la battait, etc. Mais on pourrait dire qu'elle s'est vengée dans l'écriture, un peu comme Artemisia Gentiles qui s'est vengée en peinture de son violeur en représentant de nombreuses scènes de Judith et Holofernes, etc., où une femme assassine un homme, ou plusieurs femmes parfois, décapite un homme. Là, on a une espèce de revanche par l'écriture, l'empowerment se fait par là, se fait comme ça.
On tourne autour de cette idée que ces contes, en tout cas avec nos lunettes contemporaines, on peut s'empêcher de les lire comme des contes féministes. Je lâche le mot. Vous avez aussi référence, Déborah Lévy-Bertera, vous faites référence au terme de queerness également, dans l'analyse d'un autre conte. Est-ce que c'est juste, au-delà bien sûr du côté anachronique du terme, de dire qu'il y a une dimension féministe dans ces contes? Fabienne Merel.
Oui, je dirais que quand même, on sent bien le féminisme. Il est quand même très apparent, même dans les premiers contes de 1197, on sent que tout de suite, c'est même le discours, parce que les personnages, à la différence, on voit très bien la différence avec Perrault, en fait, ils concentrent l'attention sur des personnages essentiellement masculins, qui sont héroïques et qui vont surmonter des épreuves, etc. Alors que Madame d'Aulnoy, elle donne toujours donc la primauté aux jeunes filles qui sont les héroïnes de ses contes, qui sont des héroïnes qui surmontent toutes sortes d'obstacles dans tous ses contes, qui font toujours preuve de détermination, qui sont toujours très intelligentes, qui ont de l'intelligence et de l'astuce pour les surmonter. C'est pas mal parce que ça veut dire aussi qu'à une période, on sait bien que même Molière se moquait dans Les Précieuses Ridicules, Les Femmes Savantes, d'une certaine féminité. Or, si je pense à un détail de La Princesse Printanière où on nous explique que dans son éducation, elle apprenait les sciences les plus difficiles et en même temps, donc elle est savante, mais elle n'est pas ridicule, loin s'en faut. C'est tout le contraire. Et tous les personnages, par exemple dans L'Oranger et l'Abeille, c'est la princesse aimée qui est capable de protéger le prince aimé, qui lui, en fait, paraît tellement falot. Il arrive à la suite d'un naufrage sur sa plage. Elle a été élevée par une famille d'ogres. Et donc, elle apparaît dans une tenue de Diane Chasseresse, pas nue, mais enfin, elle est habillée d'une peau de bête. Enfin, déjà, on voit bien quand même, pour la fin du XVIIe siècle, toute l'audace qu'il y a à représenter une femme de cette manière. Et donc, comme ils vont s'enfuir pour échapper aux ogres, c'est elle qui a l'idée de voler donc la baguette de fée l'ogrette, et puis Donc, quand les ogres partent à leur recherche, en fait, c'est elle qui transforme avec sa baguette, qui se transforme elle-même et qui transforme son compagnon, le prince aimé.
Et elle se transforme en abeille et fait de son compagnon une fleur. C'est-à-dire qu'il y a une inversion.
Voilà ce que vous aviez dit dans la présentation.
Génial.
Mais c'est même, il y a une espèce d'évolution qui est absolument incroyable, qui a beaucoup fait rire mes étudiants. c'est que, donc, d'abord, pour échapper donc à leur poursuivant, elle se transforme elle-même en batelière et le prince en bateau. Bon. Deuxième transformation, elle se transforme en un nain donc qui sort un peu du Moyen-Âge où elle a un discours pour tromper l'ogre et son compagnon, elle le transforme à ce moment-là en portrait. Donc en chose. Et puis, donc dernière transformation, en effet, elle devient une abeille et lui, donc il devient un oranger en peau. Et donc, on voit bien aussi tout ce qu'il y a ici de dévirilisant. C'est-à-dire que, véritablement, et lui, il se soumet tout le temps à tout. Et puis, à la fin du conte, donc en étant dans ce pot comme un oranger...
Empoté,
on peut dire, voilà ça.
Littéralement.
En effet, c'est l'abeille qui tourne autour, qui œuvre à essayer de les libérer aussi du sort que la baguette a jeté sur eux. Mais donc, il tombe dans un royaume où c'est une princesse qui s'appelle la princesse Linda, donc qui est misandre. Alors, il y a pas mal de misandrie aussi dans les contes de Madame d'Aulnoy. C'est assez fréquent. On le trouve dans le prince lutin qui va aussi pénétrer un royaume où une princesse refuse les hommes. C'est un royaume d'Amazone. On refuse même de tomber amoureux d'un homme. Bon, bref. Et donc là, la princesse Linda, elle trouve cet oranger en peau et elle lui coupe donc des branches, saignent. L'oranger émet une plainte hein, parce qu'évidemment c'est le prince aimé qui est transformé et cette princesse elle est toute émue. Alors bien sûr on pourrait dire que elle lui a peut-être coupé les bras ou les jambes, mais on pourrait aussi parler d'émasculation en fait ici. Enfin c'est comme ça que je l'ai
présenté. De fait, il y a un membre qui est coupé.
Voilà exactement et que ça fait mal et que voilà. Et donc on voit très très bien. Par exemple, dans ce conte, à quel point c'est le pouvoir féminin qui est mis en valeur.
Déborah Lévy-Bertera, sur cette question-là, féminisme, queerness peut-être, hein, j'ai lu ce terme sous votre plume, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Et puis aussi un mot, dans le résumé que vient de faire Fabienne Merel, on entend aussi l'extraordinaire profusion imagière, langagière bien sûr, hein, dans sa langue même, et en termes de péripéties, enfin c'est foisonnant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça?
Alors oui, c'est un peu deux questions distinctes. Alors sur la queerness, oui, il y en a beaucoup d'exemples de changement de genre. Par exemple, pour revenir à la biche au bois, quand elle est retransformée en femme et qu'elle va donc épouser le prince guerrier, elle apparaît vêtue en chasseur. Donc sous un costume masculin. Elle n'est pas chasseresse, elle est chasseur. Donc tous les deux sont vêtus de la même manière. Et c'est comme ça que se prépare le mariage. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et il y a évidemment cette question du pouvoir des filles est centrale. Finette Cendron, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Finette Cendron, c'est à la fois Cendrillon et le petit Poucet. C'est elle, la plus petite des trois sœurs princesses, qui décapite l'ogresse de ses propres mains. Voilà. Donc il y a toute une série de cas où les filles sont mises dans des situations... héroïque habituellement ou épique habituellement dévolu aux garçons. Donc encore une fois beaucoup de travestissements masculin féminin un peu comme chez Shakespeare.
Et ça c'est propre à Madame d'Aulnoy ou c'est des choses qu'on retrouve aussi dans
non c'est d'autres. C'est quelque chose de baroque déjà et puis qu'on retrouve aussi chez d'autres conteuses. Quant à la profusion,
alors c'est quelques mots parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien.
C'est ce qui est fabuleux et qui en même temps a pu contribuer peut-être à la mettre un petit peu de côté parce que parfois c'est trop et c'est vrai qu'on est un petit peu submergé.
On peut être un peu perdu.
L'infiniment grand, l'infiniment petit l'hyperbole.
Et en même temps c'est ce qui fait le plaisir aussi absolument. De la lecture.
Oui, c'est fabuleux dans tous les sens du terme.
Le book club continue.
À cette heure-ci, chaque jour, dans le Book Club, on vous recommande des événements en lien avec le livre et la littérature. Depuis plus de 20 ans, Contes et Histoires, c'est le nom d'une série d'événements organisés par le Centre des Monuments Nationaux. C'est le rendez-vous incontournable des conteurs et des familles pendant les vacances d'hiver. 49 monuments à travers la France sont transformés en de véritables scènes de narration et de féerie où les pierres se mettent à parler et où les légendes prennent vie. Les monuments deviennent le décor d'aventures contées, de récits enchantés et de légendes médiévales. Entre autres, conteurs professionnels, comédiens, animateurs du patrimoine font revivre l'histoire à travers la tradition orale du conte. Vous aurez compris, c'est pas sans lien avec notre sujet du jour. Il y a donc des visites contées, des spectacles de contes. Par exemple, bientôt, vous pourrez voir un spectacle au château de Rambouillet, c'est le 3 janvier. À la Villa Savoie, à Poissy, du 2 au 4 janvier, ce seront des contes à énigmes pour les tout petit, à l'abbaye de Montmajour à Arles, les 26 et 27 décembre, une série d'événements, au château de la Motte, Tilly dans l'Aube, au château d'Azay-le-Rideau dans le Val-de-Loire, ou encore à Tours, sur les tours, et les remparts d'Aigues-Mortes. L'ensemble des dates et événements sont à retrouver sur le site de l'émission Le Book Club.
France Culture, Le Book Club, Mathilde Wagman.
Et en fin d'émission, chaque jour, on cherche de la musique dans des livres. Si vous repérez, chers auditeurs, chères auditrices, une citation musicale au cours de l'une de vos lectures, faites donc une photo du passage que vous êtes en train de lire et envoyez-la nous, soit sur le compte Instagram de l'émission, soit à l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. On pioche chaque jour parmi vos suggestions pour nous quitter en musique. Aujourd'hui, on a trouver de la musique dans l'un des contes de Marie-Catherine d'Aulnoy, donc on n'a pas résisté au plaisir de se quitter avec lui. C'est un conte qu'on n'a pas évoqué, qui s'appelle Gracieuse et Percinet. La conteuse y fait un clin d'œil à l'histoire mythologique des amours de Psyché et de Cupidon, qui fut adaptée par La Fontaine, puis devint une tragédie-ballet de Molière et Corneille, créée en 1671 sur une musique composée par Lully. On servit un grand repas où Gracieuse mangea de bon appétit, car elle était ravie d'avoir trouvé Percinet au lieu des ours et des lions qu'elle craignait dans la forêt. Quoiqu'elle fût bien lasse, il l'engagea de passer dans un salon tout brillant d'or et de peinture, où l'on représenta un opéra. C'était les amours de Psyché et de Cupidon, mêlés de danse et de petites chansons. Un jeune berger vint chanter ces paroles. L'on vous aime, Gracieuse, et le dieu d'amour même ne saurait pas aimer au point que l'on vous aime. Imitez pour le moins les tigres et les ours qui se laissent dompter aux plus petits amours. Des plus fiers animaux, le naturel sauvage s'adoucit au plaisir où l'amour les engage. Tous parlent de l'amour et s'en laissent charmer. Vous seul êtes farouche et refusez d'aimer. Thank you. très grand merci à toutes les deux, Fabienne Merel et Déborah Lévy-Bertera, d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct pour parler des contes des fées de Marie-Catherine d'Aulnoy. On espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs et nos auditrices de s'y plonger. Vous pouvez les lire dans l'édition Folio ou chez Honoré Champion et écouter les différents programmes que France Culture leur consacre, et notamment à écouter en famille la lecture de Belle, Belle ou Le Chevalier Fortuné par Estelle Meyer. C'est en direct tous les soirs sur l'antenne de France Culture, ou bien quand vous voulez en podcast. Et puis aussi le documentaire Toute une vie de Dominique Prusac et Anne Fleury. On y renvoie bien sûr sur le site de l'émission. Aujourd'hui à la réalisation, c'était Anna Holweck. Au son, Éric Perruchot-Triboulet. Un très grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club, et tout spécialement aujourd'hui à Garance Roubieux, qui comme moi s'est passionnée pour Madame d'Aulnoy et m'a transmis son enthousiasme. Merci aussi à Noé Margas, Marianne Chasseur, Jeanne Aléos, Léa Weisgruss, Lou Quevauvillé et Alexandre Alaï-Begovitch, qui poursuit la conversation sur le compte Instagram de l'émission. Merci.